Chapitre 26. Les coups du sort. L'accueil que M. et Mme Marandier réservèrent à Florent fut glacial. « Je ne comprends pas, fit cette dernière, qu'en une circonstance aussi spéciale, vous n'éprouviez pas le besoin, je ne vous dirai pas de vous cacher, mais de vous tenir un certain temps à l'écart. Vous auriez dû vous douter que votre visite nous mettrait dans une situation délicate. » « Si vous saviez comme je suis désemparée, madame, pardonnez-moi, vous m'aviez témoigné jusqu'à présent tant d'affection qu'instinctivement, c'est vers vous que je me suis tournée avec l'espoir de trouver un réconfort. » M. Marandier, selon son habitude, marchait de long en large. Son visage était fermé et il était impossible de savoir ce qu'il pensait. Quant à Danielle, elle était visiblement très émue. Mais elle n'osait prendre le parti de son frère, consciente qu'elle était de la gravité de la faute de Madame Maugas. Laisse-moi parler, dit M. Marondier à sa femme. Je vois, continua-t-il en s'adressant à Florent, que vous ne comprenez pas très bien ce qui s'est passé. Votre mère vient d'être arrêtée sous l'inculpation d'escroquerie et d'abus de confiance. Évidemment, je m'empresse de vous dire que rien ne me fera changer d'avis. Vous n'êtes pas responsable des fautes de votre mère. Cependant, aux yeux de la société telle qu'elle est organisée et où nous sommes bien obligés de vivre, vous êtes quand même le fils d'une femme qui a commis des escroqueries. Malgré la peine que nous en ayons, nous sommes obligés d'en tenir compte. Nous avons beaucoup d'amis, tous ces gens se croiraient déshonorés de serrer la main, je ne dis pas du fils d'une femme escroc, mais d'un ami lointain de cette femme. D'autre part, ma fille, comme vous le savez, se marie dans quelques jours. Si on apprenait que nous vous recevons, cela ferait très mauvais effet. Nous allons même être obligés, remarqua Madame Marondier, de cacher la visite que vous venez de nous faire, ce qui nous est très désagréable. Nous n'avons pas été habitués à cacher nos relations. Je tiens pourtant beaucoup à ce que Florent assiste à mon mariage, dit à ce moment la jeune fille. Tais-toi, Danielle, tu parles comme une enfant. Je te répète, maman, que je tiens beaucoup à la présence de Florent. Mais ma pauvre enfant, tu ne te rends donc pas compte que si Florent vient à ton mariage, il formera à lui seul les témoins et l'assistance, car il n'est personne que je sache parmi nos amis et nos relations qui consentira à assister à une cérémonie en compagnie du fils d'une femme dont le portrait est dans tous les journaux. Il n'est pas question, dit-il avec douceur, que Florent assiste au mariage. D'ailleurs, la famille Fleurac s'y opposerait. Vous changez la conversation. Vous n'avez donc pas compris ce que je voulais? Je ne veux rien interdire à Florent. Je veux qu'il comprenne de lui-même qu'il ne doit pas venir, qu'il doit disparaître pendant quelques mois. Même quand sa mère aura payé sa dette à la société, observa Madame Marondier, il nous sera impossible de le recevoir. Voyons, tu sais bien qu'il y a toujours des gens qui se souviennent et qui ne manquent pas l'occasion de vous faire un affront. N'anticipons pas, songeons au présent pour le moment. Oh, j'ai compris, fit le peintre profondément meurtri. Ne craignez rien, je ne vous compromettrai pas. Il se leva. Jamais il n'avait ressenti une telle amertume. C'était donc ainsi que son propre père le traitait. M. Marondier avait-il oublié que cette même femme, dont il feignait aujourd'hui d'être souillé par le seul nom, jadis, il avait non seulement aimé passionnément, mais il lui avait donné un enfant. La vie était vraiment trop laide. « Vous pouvez nous écrire de temps en temps, » dit M. Marondier. « Je vais vous accompagner, » s'écria Danielle en se levant d'un bond. « Non, non, reste là. »« Si, papa, tu sais bien que tu ne peux pas m'en empêcher. » M. Marondier rougit. C'était la première fois que sa fille laissait penser qu'elle en savait plus long sur Florent qu'il ne le paraissait. « Je ne vous reverrai plus, Danielle, » fit le peintre dans l'antichambre. « Si, si, quand je serai mariée, vous viendrez à la maison et papa n'en saura rien. Votre mari ne voudra peut-être pas. Je le lui demanderai comme une chose à laquelle je tiens beaucoup. Vous ferez cela ?»« Oui, Florent. » Je vous aime comme un frère naturellement, et j'ai beaucoup de peine. Papa n'est vraiment pas gentil avec vous. Il aurait fait les pires choses que je n'en aimerais pas moins. Enfin, papa est âgé, il est égoïste. Alors, à bientôt, Danielle, puisque je ne vous reverrai que lorsque vous serez mariée, Laissez-moi vous souhaiter de tout mon cœur le plus grand bonheur possible. Je veux vous revoir encore une fois avant mon mariage. Vous croyez que c'est possible? J'irai à votre exposition. Personne ne le saura. Ce sera notre dernier secret. Maintenant, il faut que vous partiez, Florent. Mon père ne serait pas content. Au revoir, Daniel. Je vous embrasse comme un frère, sur le front, sur les joues aussi. Au revoir, mon frère. C'est bien le 12, n'est-ce pas, votre vernissage? Oui, le 12. En rentrant, cité Serra, le peintre trouva un pneumatique qui avait été glissé sous la porte. Pris de crainte, il ouvrit à la hâte, sauta à la signature. C'était celle de Zivavitzi. « Je vous attends demain à mon bureau. Venez le plus tôt que vous pourrez. J'ai à vous parler. » Florent se laissa tomber dans un fauteuil. « Pourvu, pensa-t-il, que Zivavitzi ne supprime pas mon exposition. » Mais bientôt il se rassura. « Il veut me demander la liste d'adresses que je lui ai promise. » Florent ne pouvait croire que l'arrestation de sa mère aurait une répercussion jusque sur sa peinture. Le monde des arts avait, heureusement, les idées autrement larges que la bourgeoisie. Sa conception de la vie était différente. Il n'attachait aucune importance au racontat, aux mesquineries familiales. Il ne s'endormit pas trop tard, s'éveilla comme d'habitude. À 10 heures du matin, il arrivait à la galerie sans avoir osé acheter un journal du matin. « Eh bien, dit Monsieur Zivavitzi, il se passe du propre dans votre famille. » Florent, ne sachant quoi répondre, garda le silence. Il se contenta de hocher la tête en prenant une expression ennuyée. « Vous avez lu les journaux? On parle de vous, mais pas comme je le voudrais. »« De moi ? » ?»« De votre famille. Évidemment, le public connaît votre existence à présent, puisque tous les journaux ont cru mieux situer la personne de votre mère en précisant qu'elle avait un fils peintre, lequel fils organisait, ce qui est faux d'ailleurs, ce n'est pas vous, mais moi qui organise, une exposition chez Zivavitzi. Vous voyez, grâce à vous, on parle de moi également. Mais cette publicité, la seule dont je me serais bien passé, m'oblige à prendre une attitude. Je vous ai donc fait venir pour vous annoncer d'abord que j'abandonne toute idée de faire une exposition de vos œuvres, ensuite que je compte envoyer à tous les journaux la lettre suivante. » Il prit un papier qui se trouvait devant lui, le lut à haute voix. « Monsieur le rédacteur en chef, dans votre numéro du 8 avril, vous mentionnez le nom de M. Zivavitzi au sujet de l'affaire de la baronne de Maugas. En effet, avant l'arrestation de cette dernière, l'intention de la galerie Zivavitzi était d'organiser une exposition des œuvres du peintre Florent Maugas. Inutile de vous dire qu'à présent, nous abandonnons cette entreprise, non pas que le mérite de l'artiste nous ait semblé diminué par les fautes qu'a pu commettre sa mère, mais par simple convenance. Veuillez agréer, monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes sentiments distingués. » Chaque mot de cette lettre avait blessé profondément le jeune homme. L'attitude de M. Zivavitzi l'écœurait. Mais que pouvait-il faire? Il n'avait qu'à s'incliner. « Vous me rendez donc responsable des fautes de ma mère ?» demanda le peintre. « Pas le moins du monde. D'ailleurs, je vous dirai que j'étais hésitant. L'arrestation de votre mère n'a été que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous savez très bien que nous ne sommes pas à une époque où on peut organiser impunément des expositions. Vos toiles sont dans le bureau de Bobichon. Vous n'avez qu'à les emporter tout de suite. Si vous voulez, je peux vous faire chercher un taxi. » Florent refusa. Il avait hâte d'être seul, de quitter la galerie. Il sortit sans dire un mot, cependant que Zivavitzi l'accompagnait poliment jusqu'à la rue, sans parler davantage. Soudain, le peintre sentit que son cœur se serrait. Il venait de songer à Daniel. Il ne la reverrait plus avant son mariage. Tout était fini. Jusqu'à ce jour, chaque fois qu'il l'avait quittée, il avait retrouvé la même. Mais à présent, ce serait une femme ayant appartenu à un homme qu'il retrouverait. Plus jamais il ne reverrait les yeux innocents de Daniel, plus jamais il ne reverrait sa main pure. Quand il reparaîtrait devant elle, ce serait comme devant une femme. « Je ne serai pas le premier frère dont la sœur s'est mariée, » murmura-t-il pour se consoler. Il ne dut pas moins se retenir de pleurer. Sa gorge se contractait. « Daniel » murmura-t-il, comme ce fameux jour où il avait attiré l'attention des passants de l'avenue des Champs-Élysées. Tout était différent en son cœur, et tout était pourtant semblable autour de lui, puisqu'un passant se retourna. Me voilà comme au lendemain de ma libération, après une année de service militaire, seul, ayant toute ma carrière à faire. Je ne regrette pourtant rien, car j'ai vécu des heures inoubliables, Daniel, et je dis cela sans sourire, quand vous n'étiez pas ma sœur, vous m'avez rendu le plus heureux des hommes. Dans quelques jours, vous serez mariée, et vous m'oublierez beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Vous pensiez n'avoir aucun sentiment pour Robert de Fleurac, vous vous trompiez. Vous l'aimiez au fond de vous-même. » Sans s'en rendre compte, au lieu de se diriger vers la cité Serra, Florent était monté vers Montmartre. Malgré l'heure matinale, certaines femmes arrêtaient les passants. Florent les repoussa dignement, en homme qui, s'il n'accepte pas pareilles invitations, n'en a pas moins une certaine indulgence pour celles qui les font. En vérité, il n'eut pas demandé mieux que de se laisser faire violence. Il avait besoin d'oublier, d'ouvrir son cœur. Il se sentait seul comme il ne l'avait jamais été. Sa mère était en prison. Sa sœur était sur le point de se marier. Son père l'avait éloigné comme s'il avait été un étranger, à peu près comme l'avait fait M. Zivavici. Où trouver un réconfort, sinon parmi ces femmes, justement? Elles souffraient comme il souffrait. Mais aucune ne lui semblait digne d'entrer en communion avec lui, et il continuait sa route.